La police française est l'une des plus violentes d'Europe.
Il faut peut-être se dire qu'en face, on n'a peut-être pas les gens les plus gentils de l'Union européenne.
Un certain nombre de gilets jaunes prétendent que la police française aurait un comportement dur, digne d'un pays qui a un système politique dur.
Aujourd'hui, la police, elle est face aussi à des délinquants qui sont eux-mêmes de plus en plus agressifs, de plus en plus violents.
Combien d'images, combien de vidéos de manifestants battus au sol, violentés, apparemment sans raison, touchés par des tirs tendus de LBD au visage, blessés par des explosions de grenades, de désencerclements. Depuis l'an dernier et les manifestations des Gilets jaunes, ces témoignages directs de violences policières se multiplient sur les réseaux sociaux et le nombre de personnes blessées serait en très forte augmentation. On parle de plus de blessés en 18 mois qu'en 20 ans. Pour autant, il est très difficile de se procurer des chiffres précis, malgré le fait que l'IGPN est depuis le 1er janvier 2018 en charge du recensement des violences contre les civils exercées par les forces de police et de gendarmerie. Bonjour Sébastien Rocher.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur de La police en démocratie. C'est aux éditions Grasset. Alors, y a-t-il plus de violences policières aujourd'hui qu'hier ?
Depuis les années 60, on est toujours sur une pente de diminution de l'usage de la violence par la police. Donc on est toujours dans une perspective d'abord de professionnalisation. Donc en France, on a choisi d'avoir des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre, des CRS ou des gendarmes mobiles. Cette professionnalisation du maintien de l'ordre jusqu'aux années 80 a fonctionné assez bien si on regarde les effets négatifs sur la population, qui sont la privation des libertés de manifester, qui sont les blessures irréversibles, comme les mutilations ou les morts. Ça a fonctionné assez bien. Et puis, en fait, il y a une transformation progressive d'abord de l'équipement, avec l'introduction des flashballs et du LBD dans les unités d'intervention de la police, type GIGN, pour neutraliser en fait des personnes extrêmement dangereuses qui sont en train de, je sais pas, de détourner un avion ou de prendre des otages. Puis une diffusion sous Nicolas Sarkozy de ces outils aux brigades anticriminalité, donc les BAC qui font, comme on dit, du saut dessus, qui interviennent en banlieue, avec un usage de ces matériels en fait, contre des gens qui étaient pauvres, plutôt appartenant aux minorités ethniques. Et puis, récemment, en fait, une utilisation qu'on n'avait jamais vue, massive, en maintien de l'ordre. Donc voilà, sur 40 ans, toujours une baisse, puisqu'on a quand même moins de violences mortelles de la part de la police, mais on a une augmentation de tout ce qui est non mortel, mais extrêmement grave, qui sont les mutilations.
Comment se fait-il, quand on cherche, qu'il soit si difficile d'obtenir des statistiques fiables ? On cherche le nombre de blessés, par exemple, par la police. C'est quasiment introuvable ou c'est très difficile à trouver, alors que, comme je le disais, l'IGPN est normalement en charge depuis le 1er janvier 2018 du recensement des violences contre les civils.
D'abord, l'État, essentiellement le gouvernement, ne souhaite pas publier ces chiffres. Il faut se souvenir que jusque dans les années 80, on ne publiait même pas les chiffres de la délinquance, qui étaient considérés comme secrets d'État. Donc progressivement, on a accepté de donner les quantités de crimes et délits, fait entre les années 80 et les années 90, et tardivement, sous l'effort de la précédente directrice de l'IGPN, Madame Monéger, il y a eu la première publication de munitions tirées, le nombre de personnes blessées à un certain niveau de gravité, qualifié par un certain nombre de jours d'interruption de travail, plus les décès. Donc c'est un comptage partiel, c'est un comptage assez grossier. On se situe, je dirais, entre 7 et 12 personnes qui sont tuées au cours des opérations de police. Ça peut être en fuyant la police, ça peut être tué par la police. Donc on est dans cette fourchette-là. On est un peu supérieur, si on calcule ça avec des ratios par habitant, aux Allemands ou aux Anglais. On est très loin de la violence policière des États-Unis, du Brésil, de la Russie et puis d'autres pays.
Et pour ce qui est des blessures et des mutilations ?
Alors ça, on n'a pas eu de comptage qui remonte dans le temps en arrière, très loin. Et on a aujourd'hui, avec 30 personnes environ, donc un peu moins de 30, hein, 28 personnes qui sont mutilées, donc perdues définitivement la vue, ou qui ont perdu un membre, un pied ou une main. Mmh. On a donc un comptage qui est sans précédent. C'est-à-dire que même si on étale ça sur les 6 mois de crise dure, on va dire fin novembre 2018 jusqu'à avril 2019, il n'y a aucun autre pays européen dans lequel on va avoir compté 30 mutilés en 6 mois. Ça n'existe pas.
On évoque l'augmentation de ce nombre de mutilations et de blessures depuis les Gilets jaunes. Les associations remontent rappel aux émeutes de 2005 en disant que c'était tabou, que c'était tu et que les gilets jaunes ont été un révélateur d'une situation qui était déjà existante, notamment dans les quartiers défavorisés. Est-ce que c'est vrai?
L'utilisation d'une police plus agressive et plus violente est effectivement concentrée sur les banlieues, sur les zones pauvres. C'est pas quelque chose de particulier à la France. On va le connaître aux États-Unis aussi. Et la police française est beaucoup plus violente dans ses interventions, plus fréquemment, avec des niveaux donc de fréquence de violence, d'abord d'altercation verbale et de violence physique, que par exemple la police allemande. Donc la police allemande sait mieux faire de la police, elle sait mieux faire une police de qualité.
Est-ce que la contrepartie, Sébastien Rocher, c'est que le niveau de menace et de violence contre les forces de l'ordre a lui aussi augmenté?
Alors, si on mesure le nombre de policiers qui ont été tués en service sur une trentaine d'années, ce nombre est en déclin. En revanche, il y a une augmentation des blessures, ou là, une période où on sait mieux les compter, mais essentiellement pour la gendarmerie, pas pour la police. Donc c'est la force qui utilise le plus les LBD, les tirs, et qui est à l'origine des blessures irréversibles, c'est essentiellement et principalement la police nationale, certaines des unités de la police nationale.
Tout de même un niveau de violence qui semble assez élevé quand on voit ce qui se passe avec les Black Blocs, notamment récemment avec les Gilets jaunes.
Alors il y a des images spectaculaires qui sont réelles en fait, donc ces cas réels ne sont pas révélateurs d'une tendance. Ils existent, ils sont spectaculaires et il y a une émotion populaire et policière sincère. C'est-à-dire que les gens trouvent incroyable qu'on puisse mettre le feu à un policier, mais ils trouvent tout aussi incroyable qu'un policier puisse faire perdre la vue en utilisant une arme, en tirant sur quelqu'un qui est à proximité d'une manifestation. Donc aujourd'hui, il y a dans l'opinion une réprobation de la violence, parce que une des choses sur lesquelles nos sociétés sont construites, c'est la réprobation de la violence physique intentionnelle. Et c'est vrai pour le mouvement MeToo. Il n'y a pas aujourd'hui plus de femmes victimes d'agressions sexuelles, il y en a moins, mais c'est un enjeu politique. C'est la même chose pour l'Église aujourd'hui, il n'y a pas plus de prêtres qui ont agressé des jeunes que dans le passé, mais ce n'est plus toléré. Aujourd'hui, la violence physique n'est plus tolérée.
Dernière question, Sébastien Rocher. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut lier ce surcroît de violence policière que vous décrivez avec une décision politique? Est-ce que ça vient d'en haut?
Alors évidemment, c'est très difficile à établir. Donc on n'a que disons des éléments, des faisceaux indirects de preuves. On n'a pas de preuve de la causalité directe, c'est sûr. Alors ce qui peut jouer, c'est d'abord le fait que l'autorité politique, donc le ministre, le secrétaire d'État ou même le président, le premier ministre, vont désigner les adversaires comme des factieux, des dangereux, personnes très menaçantes, à la fois pour les policiers et pour la société. Donc quand les chefs disent à leurs troupes « bon, ceux qui sont en face de vous sont très méchants », c'est pas de nature, disons, à pacifier la réponse. La deuxième chose, c'est le choix par l'autorité politique d'engager toutes sortes de troupes en même temps, donc aussi bien les BAC que certains personnels d'ailleurs de police qui faisaient du travail en civil, qui ont été équipés à la va-vite ou qui sont eux-mêmes achetés un casque et des protèges tibia, des unités comme les unités de gendarmerie mobile, les unités cynophiles, l'utilisation des hélicoptères. Bon, le mélange de toutes ces unités rend très difficile en fait le contrôle et la coordination de leurs activités. Puis, le fait qu'on ait toléré le fait qu'il n'y ait pas de port des numéros d'identification des agents fait que les agents savent qu'ils ne peuvent pas facilement être retrouvés et identifiés. Donc, s'ils utilisent leurs armes à mauvais escient, contre la doctrine, contre les règles, à ce moment-là, ils ont une protection de facto, puisqu'ils sont tous habillés en noir, ils se ressemblent tous. Et comment est-ce que même si on a une vidéo, on pourrait les retrouver?
Dans certains cas de violence, on arrive toujours à retrouver les policiers ou les agents du maintien de l'ordre qui sont concernés.
Pas toujours, non. Déjà, il y a une fraction des cas qui est rapportée à l'IGPN. Il y a toujours une partie uniquement des victimes qui portent plainte. C'est vrai aussi bien pour les femmes que pour les policiers. Et ensuite, l'IGPN déjà a éliminé à peu près un quart des personnes dans les enquêtes parce qu'elles n'arrivent pas à savoir qui ils sont.
Merci beaucoup Sébastien Rocher. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS, auteur de La police en démocratie. C'est aux éditions Grasset. Les idées claires, c'est une émission proposée par Nicolas Martin. Coordination Aurélie Boiseau, réalisation Luc-Jean Reynaud.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.